Bonsoir à tous et bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time saison 4 épisode 6 avec autour de la table nos chroniqueurs et on commence avec toi Jean-Marc.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et un bonsoir particulier à toute l'équipe du Coq qui nous écoute depuis la cuisine.
Bon, on les embrasse. Et à côté de toi, c'est Charles. Ça va, mon Charles ?
Ça va très bien. Bonsoir à tous.
Et on continue les présentations. À côté de moi, c'est Fabrice qui revient après un break de 15 jours.
Non, une semaine seulement. J'ai juste une émission. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et très bon anniversaire, maman, qui a 71 ans aujourd'hui.
Et ben, on l'embrasse aussi. Et puis, à côté de toi, c'est Lulu. Ça va ?
Ça va très très bien, bonjour à toutes et à tous.
Alors ton coup de cœur mon Lulu, du week-end, dis-moi tout.
Alors j'avais envie d'être un peu original, mais le problème c'est que je suis obligé de dire que mon coup de cœur ça reste Rafael Nadal. Parce que j'étais le premier à dire que cette année il ne gagnerait pas Roland-Garros, avec les conditions un peu particulières. Et au final il m'a fait mentir et il a explosé.
T'étais pas le seul Lucien, j'ai été aussi Djoko à fond. J'avais dit Djoko, il est en super forme, c'est Djoko qui va gagner cette année.
Exactement.
Et on s'est loupé, et voilà.
Et force est de constater que à Roland, c'est le maître incontesté.
Et oui, week-end des records, notamment pour Nadal. Alors toi, ton coup de cœur, Fab ?
Ben moi, il n'y a pas photo. Moi. Pour moi, Djoko devait gagner cette année, et Nadal, voilà, il a été exceptionnel en 3-7. Il n'y a pas photo, Djoko le dit, hein, il est pas à la hauteur. Mais les balles étaient plus lourdes. C'était un Roland-Garros un peu particulier. Les amortis ont été le jeu préférentiel des joueurs. Ça a été vraiment un coup de maître que tous les joueurs, d'ailleurs, Hugo l'a fait aussi. Tout le monde l'a fait. Et ça a mis des points énormes. Et c'est vrai que c'était un peu particulier comme Roland-Garros.
Mais bon, ouais, garde-en un peu pour tout à l'heure, sinon on n'aura plus rien à dire. Bon, à toi aussi, alors Nadal, ton coup de cœur du week-end.
Bah Nadal, voilà, très strict, il n'y a rien à dire, il a rejoint Federer. Et voilà.
Ok, c'est noté. Et toi Charles ?
Mon coup de cœur, on va changer un peu de sport, on va parler de VTT cyclocross, c'est Pauline Ferrand-Prévot, mon coup de cœur.
Bravo. Ah, elle est pas championne du monde pourtant.
Elle devient triple championne du monde d'affilée. C'est la seule femme et homme confondu qui avait le titre en cyclocross, en course sur route et en VTT, la seule à avoir été championne du monde la même année en 2015.
Et t'en fais aussi ton coup de cœur.
Non, pas du tout. Moi, mon coup de cœur, c'est aussi pour un énorme champion, enfin une équipe de champions. C'est pour les Lakers de LeBron James qui ont rendu un bel hommage au regretté Kobe Bryant en gagnant leur 17e titre pour les Lakers. Ouais. Et puis, pour LeBron James, ils gagnent avec une troisième franchise différente après avoir gagné avec les Cavaliers et le Heat, justement.
Et le titre de MVP pour LeBron James.
Et le record aussi, ils égalent Boston, avec 17 titres de NBA. J'ai oublié notre réalisatrice, la Sofia Coppola de Money Time, c'est Maëlan. Salut Maëlan.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et toi, ton coup de cœur ou ton coup de gueule du week-end ?
Moi, c'est vrai que j'ai bien aimé Nadal. Hein.
Ouais.
C'est un peu évident, mais c'est le maître incontesté.
Nadal, 20e titre.
Non, mais d'accord, jouez à votre tête. Votre Djoko est très bon aussi, hein. Faut pas, il ne démérite pas.
Nadal est meilleur.
Ouais, mais il n'a pas été au niveau. Alors, le sommaire de Money Time ce soir, on va commencer avec la page handball. Deux matchs de Lidl Star League. Le H face à Toulouse et le déplacement à Bougnoles, c'était hier. Dans la foulée, les sports méca, on revient sur le Grand Prix du Nürburgring, le Grand Prix de France MotoGP et puis le Rallye de Sardaigne. Derrière, chasse patate avec toutes les classiques de la semaine et le Giro. Et puis les résultats de nos clubs nantais, on revient sur les perfs ou les déconvenus, comme vous voulez, du VBN, du NRMV, du FC Nantes féminin, des Corsaires et du NRB. Et pour terminer, dans Multizone, on revient vite fait sur Roland et puis la Ligue des Nations de football, c'était ce week-end. Et on terminera avec un quiz. Voilà Maëlan, le sommaire est donné, on est parti, c'est H-Time.
Hashtag Money Time.
Toute l'actualité du HPC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, info, interview.
Hashtag Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Alors, comme on l'a dit, deux matchs sur l'agenda cette semaine pour le H, hein, les 3 et 4e journées de Lidl Star League, mais ça commençait donc mercredi à la H Arena avec la réception de Toulouse, la bête noire du H, enfin une équipe qui nous pose souvent des problèmes. Les garçons, vous y étiez?
Ouais.
Lulu.
Alors exactement, on y était, donc c'était un match très serré. Les Nantais ont réussi à sortir du piège toulousain grâce notamment à une relation avec le pivot très efficace. Hein, on note Figueras à 6 sur 7 au tir et Pêche Malbec à 4 sur 4.
Ouais, un domaine où ils ont brillé cette semaine,
ouais,
les Violets.
Et depuis le début de la saison notamment. La jeunesse nantaise aussi a été décisive à l'image de Mathieu de la Bretèche propulsé à la Maine. Lucas de la Bretèche propulsé à la Maine en l'absence d'Ovnisek. Et les anciens aussi ont fait le boulot, les cadres, hein. Rivera, ouais. 6 sur 8, Lazaroff également.
Et tu m'as dit que dans ce secteur du jeu, on n'avait pas de demi-centre valide, hein, puisque les deux titulaires étaient blessés, Ovnisek, mais aussi Emeric Mine.
Exactement, et Emeric Mine aussi est blessé, du coup c'est Lucas de la Bretèche qui prend la mène et qui s'en est très très bien sorti. À noter aussi que le Phoenix a été maladroit, hein, témoigne leurs 19 pertes de balles. Et le virevoltant demi-centre Luke Staines, qui nous a fait très très mal lors de son dernier match contre le H, où il avait inscrit 9 buts sur 9 tirs, a été beaucoup moins en vue. Donc ça nous
Tant mieux, un joueur, un format de poche. Hein,
et le pauvre Luke Staines qui s'est blessé vendredi contre le PSG.
Et petit point noir côté H quand même sur ce match, c'est la mauvaise prestation des gardiens. Alors qu'on a quand même deux très bons gardiens, mais Dumoulin a fait 0 arrêt sur 6. Et Nielsen s'est contenté d'un petit 6 arrêts sur 28 tirs. Mais il s'est quand même montré décisif en fin de match. Donc c'est là qu'on reconnaît quand même les grands gardiens.
À 25-24, il fait un bel arrêt qui permet à Nantes de après faire le petit break.
Exactement.
Il a fait l'arrêt qu'il fallait au bon moment finalement. C'est un peu ce qu'on lui demandait, même s'il fait un moins bon match.
Et on a senti que toutes les victoires allaient être importantes, enfin tous les matchs allaient être importants, car quand le coup de sifflet final a retenti, on a vu l'explosion de joie de Thibaut Brié et même
ouais,
d'Emile
Libération. La libération.
Vraiment comme si c'était une finale de Ligue des Champions, quoi. Dans un championnat très très homogène, c'est... Toutes les victoires sont bonnes à prendre.
C'était un match très serré et là, de pouvoir gagner comme ça et tout, c'était très important pour le H.
Ah bah surtout important de pas laisser passer de points à la maison.
C'est vrai qu'ils restaient sur une grosse déconvenue contre Toulouse. Hein. Ils avaient pris plus 8. Donc voilà, c'est
36-24.
Un soulagement de
34-26 pardon l'année dernière pour le Phoenix. En zone mixte, Lucien, tu as pu rencontrer deux joueurs qu'on va écouter. Hein. On commence avec Rock. Je crois, et derrière, c'était
de la Bretèche.
Lucas Bretèche, Maëlan.
Lucas.
Bonjour, Roch. Donc vous avez gagné d'un but à Chartres. Là, ce soir, vous gagnez encore dans un match très serré. Qu'est-ce qui permet à Nantes de gagner ce genre de match très important en début de saison?
Peut-être notre expérience, notre caractère aussi. Parce que c'était... C'était un match très difficile, on peut vu les circonstances, pas revenir là-dessus, mais avec toute la partie de l'effectif qui nous manque. Mais l'idée c'était, c'est un match par expérience, je sais que c'est un match clé. C'est un match clé qui peut nous faire basculer dans une bonne dynamique, parce que là on a un calendrier très très compliqué. Et avec les défaillances, et l'idée c'est de continuer, de prendre les points, et on a réussi à en prendre deux points très très importants contre une très bonne équipe de Toulouse.
Bonjour Lucas.
Bonjour.
Entre Brillet, Monard, Faduil et vous-même, le coach en ce début de saison fait confiance à la jeunesse nantaise. Vous avez été très décisif en fin de match et tout au long du match. Comment vous jugez votre début de saison et ce match personnellement?
Et le début de saison, on a été, nous les jeunes, comme je dis, on a été poussés un peu très vite sur le devant de la scène avec tous les blessés. Donc on essaye de faire au mieux, de tout donner pour l'équipe. Et comme je disais, ça se passe bien, donc il faut que ça continue comme ça.
Et d'un point de vue personnel, du coup, votre prestation ce soir et depuis le début de la saison?
Et bah comme c'est la première ma première mon premier match complet, on va dire, où j'ai impacté pendant tout le match, de voilà, donc je suis content et c'est mon premier match où je ressors satisfait, pas complètement bien sûr parce qu'il y a toujours des détails et des choses à améliorer, mais le premier match où je ressortais satisfait, et en plus gagner un grand match comme ça, ça fait toujours plaisir, surtout que l'année dernière on avait pris 8 buts ou 9 buts ici, qu'on avait à cœur de se venger de l'année dernière, et ça s'est bien passé, donc tant mieux.
Merci Lucas. C'est bon.
Ouais, et ben la série s'est prolongée. Alors on attendait mieux d'un Nantes brillant hier à Bougnol, hein, puisque Montpellier revient au forceps pour arracher le point du match nul.
Ouais, alors donc le choc a tenu toutes ses promesses, hein, entre ces deux formations qui réalisaient jusque-là un sans faute en championnat. Donc ce dimanche, les Nantais, toujours privés de plusieurs joueurs majeurs, hein, donc ils présentaient une équipe encore rajeunie. Mais ces genoux ont fait le boulot. Hein. Thibaut Brier, excellent encore depuis le début de la saison. Bon, il était passé un peu à côté à Toulouse, mais là, il est 6
sur
8, vraiment excellent.
Hein, c'est vraiment 6 lui sur 8 qui porte tir, toute la base arrière, hein, avec sa puissance, ouais. Hein, notamment une lunette
exactement,
magnifique.
C'est impressionnant. Il a vraiment un bras, comme on dit. Hein. C'est
un gros bras. Il nous rappelle un certain Lagarde au même poste.
Exactement. Hein. Et de la Bretèche, hein, encore été excellent à la main, alimentant parfaitement les pivots. On voit que c'est vraiment une arme, ça, la relation arrière-pivot, qui va faire très très mal à de nombreuses équipes cette saison.
Alors, est-ce que vous avez enquêté sur le numéro 22, Mathéo Laville, je crois, qui est le fils d'une grande joueuse? Justement, je voudrais savoir laquelle.
Alors, est-ce qu'elle a joué en équipe de France?
Ah, je sais pas du tout, c'est vraiment une question pure, c'est savoir si vous aviez enquêté.
Alors là, aucune idée.
Donc enquête obligatoire, il nous faut la réponse la semaine prochaine. Hein.
Ça sera fait.
De physique, on dirait Carlos Valderrama, mais c'est pas lui.
Je vois qui tu veux dire, oui, je l'ai aperçu sur le banc. Oui.
Du coup, le H a compté jusqu'à 3 buts d'avance à 10 minutes de la fin. Mais de nombreuses pertes de balles, hein, ils en ont compté 17 au total, les Nantais. Et surtout,
c'est trop pour s'imposer.
Ouais. Et surtout l'insolente réussite de l'ailier Hugo Desca. Hein, vraiment, c'est
13 buts.
13 buts sur 14 tirs. Alors c'est bon, il a été très performant dans le jeu, au pénalty, en contre-attaque. Donc ça a permis au MHB de recoller. Et Diego Simonet égalise à 10 secondes du terme, l'Argentin, sur un tir contré par le malheureux patron de la défense, Roque.
Ah, les violets auront une balle de match, hein, mais oui, encore une fois mal négocié avec perte de balle.
Et quand on écoute de coup la causerie, Roque qui dit surtout qu'on ne tente pas une passe de merde, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. La passe de merde que personne attrape, et résultat, pas de tir. Dommage.
Donc, quand même au final un très bon match des Nantais, hein, parce
un
que,
très bon ouais, point ouais.
qui ramène un bon point, hein, de René Bougnol, hein, du Palais des Sports de René Bougnol, mais quand même ils l'ont dit à la fin, ils étaient un peu déçus car il y avait vraiment la place d'aller s'imposer à Montpellier et de prendre deux points.
Il y avait la place, mais encore une fois Nielsen à 21%, ça suffit pas.
Après il a encore été décisif
et il a marqué deux buts.
Il a marqué deux buts d'ailleurs, c'était le deuxième meilleur marqueur de Nantes en première période, hein, donc ouais. Mais c'est vrai qu'on attend de lui, hein, un gardien de ce calibre qui soit pas seulement décisif sur quelques actions, mais qui soit vraiment performant. Donc,
oui,
il passe
puis
un
après,
grand nombre d'arrêts.
Il y a eu beaucoup de pertes de balles quand même en première mi-temps des Nantais. C'est normal, hein, c'est des jeunes joueurs, ils apprennent.
Exactement.
Ils apprennent leur métier, donc ils apprennent aussi à faire des erreurs.
Ils apprennent plutôt vite, parce que c'est vrai que la jeunesse nantaise est impressionnante depuis ce début de saison.
Ouais, on notera cette semaine le retour de Balaguer, hein, qui aura joué les deux matchs et marqué 5 buts dans la semaine. Ouais. On retiendra que Nantes est seul deuxième, avec certes un match de plus que Montpellier, mais Nîmes s'est incliné chez lui face à Créteil, 22-25, et ça, c'est bon pour le H et
est-ce
une
que vous
place
avez...
en Champions League.
Est-ce que vous avez remarqué qui était le troisième ex-aequo?
Oui, Limoges.
Et très impressionnante, l'équipe de Limoges depuis
le
début de la saison.
Le nouveau venu, et tout comme Cesson, l'autre promu, pardon, qui lui se retrouve à la cinquième place.
Pour revenir sur Limoges.
Le retour de Cesson.
Oui, le retour de Cesson. Mmh. Mais ils sont promus, si tu veux, ce que je veux te dire.
Pour revenir sur les promus limogeois, là, un très 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 bon joueur depuis le début de la saison. Je pense qu'il est meilleur buteur. Enfin, peut-être pas avec Hugo Desca qui a inscrit 13 buts, mais c'est Dragan Gajic. Il a marqué. Il doit avoir une moyenne de 8 buts par match depuis le début de la saison. Donc c'est toujours efficace.
Au calendrier,
le prochain match, c'est mercredi à 18h45 à Aalborg au Danemark en Ligue des Champions. Et après, prochaine journée, donc la cinquième journée de Lidl Star League, C'est au H contre Tremblay dimanche.
Voilà, réception de Tremblay dimanche à la Charena à 17h.
Exactement.
Ben voilà, on a été complet avec le H, Maëlan. On va changer de sport et on va parler de sport méca, c'est Nitro.
And Fando, is there any damage? Is there any possible damage?
Nitro, c'est toute l'actualité de sport mécanique tous les lundis soirs à 19h dans Money Time.
Et la page sport méca avec toi, Fab, on commence par quoi?
On va commencer par le MotoGP.
MotoGP, Grand Prix de France au Mans.
Alors, avec un Grand Prix fou, complètement cinglé.
Et la météo qui s'en mêle. Hein.
Et la météo. Alors, la météo s'en mêle à 2 minutes du départ. On a un Quartararo qui est en tête, qui est en pole position. Et là, ça part à 200 à l'heure. Il garde la pole position. Mais il se rend compte qu'au bout de 2-3 virages, il est pas, il n'a pas les bons pneus. Certaines personnes, bah, certains coureurs comme Petrucci, d'ailleurs, qui gagne le Grand Prix, et 2-3 pilotes, changent de pneus. Ils ont,
préféré, les Ducati, notamment. Hein.
Bah, les Ducati ont préféré... De Vizzo et.
Ils ont changé avant le départ.
On change avant le départ. Et voilà. Ils perdent 3-4 places, 5 places, 6 places, 10 places. Ils se retrouvent 15e au classement. Mais on se rend compte qu'au fil du Grand Prix, ça joue très serré. Rossi sort.
Ça s'équilibre. Hein,
Rin sort.
Ceux qui sont partis en pneus intermédiaires reviennent, hein, notamment
et
Zarco.
Là, et on voit un Quartararo qui est pas si con que ça tout compte fait, parce qu'il est intelligent, parce que il va essayer de remonter les places au fur et à mesure en se disant je joue la sécurité, les mecs qui sont derrière moi au niveau chemin du monde sont en difficulté aussi, ils ont pris des risques, moi je vais pas en prendre. Il a un pas pris, il finit 9e
devant Mir, hein, du coup,
ouais, devant Mir du coup
et Vignales.
Et c'est pas imbécile ce qu'il a fait, parce que Vizzozo, même lui, a compris le message de Quartararo. Il a laissé passer Alex Marquez. Alors, Alex Marquez, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. C'est un Grand Prix, voilà. C'est le petit frère de Marc Marquez, comme tout le monde connaît.
Et qui ramène les premiers points pour Honda cette saison.
Et qui ramène les premiers points pour Honda, et qui finit deuxième, c'est son propre jeune. Mais il était intelligent, Quartararo, je pense. Il a laissé... venir derrière en disant on prend pas de risque, on prend des points au chemin du monde,
ouais,
pour tout le temps devant de venir.
Il a bénéficié aussi de quelques chutes.
Ben oui, il a bénéficié de chutes sans vouloir lui-même chuter. Comme il avait pris la mauvaise décision au niveau des pneus, il fallait que lui-même soit intelligent. De Vizioso l'a fait aussi. Morbidelli est tombé, Rossi est tombé, tout le monde est tombé, quoi.
Miller,
lui,
ouais.
Il a joué intelligence. Perdre des points, chaud, ok.
Ouais. Au final, c'est un bon week-end pour lui parce qu'effectivement,
c'est
il
pas si mal
sur
que
la
ça.
Concurrence.
Bah, mais c'est sur la concurrence. Il perd finalement pas trop de points, à part sur Dovizioso finalement, mais sur les concurrents directs, bah, en fait, ils sont juste derrière et donc ils perdent absolument pas de points. Il a été très malin sur Dovizioso.
C'est intelligent comme course.
Exactement, c'est une course intelligente. Il pouvait pas gagner, il pouvait pas faire top d'un podium, mais il pouvait assurer pour éviter de perdre trop de points au classement.
Moi, je m'exprime en supporter des Français. Est-ce qu'il aurait pas dû prendre des risques? On aurait tous aimé le
triompher. Non, c'est pas un mec qui court sous la pluie. Il est horreur de ça.
Voilà, c'était sa première course.
Sa première course.
Il a jamais couru sous la pluie.
Et il voulait pas prendre de risques. Il prend 8 ou 9 points, je sais plus. C'est très intelligent de sa part. Il a préféré. Voilà, on va dire. Est-ce que ça... Et Zarco, lui, par contre.
Génial, une super course.
Lui, par contre,
exceptionnel.
Il restait 2 tours. Il était sur le podium, quoi.
Ouais, c'est ce qu'il le dit,
mais
d'ailleurs.
Il le dit.
Oui, mais s'il y avait 2 tours de plus, je finis sur le podium.
Mais Johan Zarco a raté son Zarco, s'il te plaît.
Zarco,
a raté
son... J'ai pas dit Charco. Hein.
Non, c'est pire. Johan Zarco a raté son départ, et il le dit après. Il aurait pu finir sur le podium.
Quel dommage, ça aurait été tellement beau de voir un Français GP de France.
Oui, mais après que des sur fait le monde. Mais c'est vrai, mais c'est déjà une belle cinquième place.
Une belle cinquième place.
Qui va être très bien.
Qui sera promu chez Pramac aussi en plus l'année prochaine, donc avec une meilleure moto. Ouais. Donc on peut espérer finalement des podiums plus récurrents l'année prochaine pour Zarco.
Ce qui est beau, c'est qu'en 9 Grands Prix, on a 7 pilotes
Vainqueurs différents.
Vainqueurs différents.
Et il y a que exactement. Qui pas,
donc c'est beau.
Il y a que Quartararo qui s'est emporté plusieurs, fois. Hein.
Ouais, c'est les Français commencent à s'installer quand même.
Attention
dans le
à
hall,
Suzuki
hein,
dans ce championnat du monde. Oui, parce qu'on l'avait encore vu. Reims fait une remontée formidable. Hein, parti 11e sur la ligne.
Il a pris un risque. À un moment, il restait 7-8 tours. Il a pris un risque et. Voilà, il est parti.
Mais c'est surtout Mir qui est là derrière au classement.
Et Mir aussi. Mir est parti la faute. Rossi est parti la faute. Et c'est. Voilà, ces pilotes-là. C'est des champions, hein, les mecs, ils veulent ça. Mais c'est des rookies. Ouais. On a vu hier.
Exactement.
On a vu des rookies
et jeunes.
Essayer. Parce que les mecs qui sont en tête du championnat du monde ont essayé de maintenir leur position dans les 10 premiers. Ils n'ont pas voulu attaquer. Et les rookies en ont profité. Alex Marquez, il a fait une course extraordinaire.
Ouais. Ah bah il a fait ce qu'il fallait, ouais.
Attaquer de Buzzo, faut quand même y aller quand même.
Il répond aux critiques, il avait été beaucoup critiqué. Hein.
Fabrice, je voudrais te saluer parce que tu nous avais posé une question sur le team de Valentino Rossi et le VR46 l'a emporté en Moto 3 avec Christian Vietti à tout juste 18 ans.
Celestino.
Celestino Vietti, Celestino. Pardon, si je l'ai mal dit. Et puis maintenant, on va passer à la Formule 1.
Oui, bah oui.
Grand Prix du Nürburgring et record égalé pour Lewis Hamilton qui rejoint Schumi dans la légende, 91e victoire en carrière.
Alors là, c'est le passant de pouvoir. Schumacher était le pilote le plus capé au monde.
Et ça, c'était avant.
Ils sont égalités.
Ça va vite être dépassé.
Oui.
J'ai adoré le geste de Mick Schumacher, le fils de qui lui offre son casque.
Qui a offert le casque de son père, ouais, Michael.
C'est absolument génial, c'est émouvant. 91 Grands Prix, vous vous rendez compte un peu. Et c'est absolument
extraordinaire. Bah, il va arriver à 100, lui. Hein.
Et quand tu
il aura les 100. Par contre, moi, ce que je veux signaler sur ce Grand Prix, c'est parce que c'est un Grand Prix un peu exceptionnel. C'est le podium de Renault depuis 10 ans.
On l'attendait. Ricciardo, troisième.
Et d'ailleurs, le patron de l'écurie Renault avait dit que s'il y avait un podium donc de Ricciardo.
Maintenant de Renault cette année, surtout.
Mais bon, Ricciardo.
Il y a plus de chances que c'est Ricciardo.
Voilà, il allait se faire un tatouage.
Et c'est arrivé.
Tatouage obligé.
Le losange, du coup.
Ricciardo a dit qu'il allait se faire plaisir.
Voilà.
Je pense qu'Hamilton sera le recordman de victoire, évidemment.
Oui. Après, les records sont faits pour être battus. Hein. Donc, si Hamilton va battre Schumacher.
Pour l'instant, Hamilton est à 70 victoires avec Mercedes et Schumi est encore à 72. Donc, il y a encore un petit coup d'avance, mais bon, ça se fera.
C'est une information que j'ai intra-muros, on va dire. Mais que Michael Schumacher, qui est quand même un garçon en convalescence, mais très conscient, a apprécié la victoire d'Hamilton.
Oui, c'est normal.
On peut en
grand champion, forcément, il était.
Comme Federer a apprécié la victoire Nadal.
Exactement. Voilà, les grands champions se respectent et c'est normal. C'est cool.
Comme tu disais, Charles, les records sont faits pour être battus. Et enfin, Schumacher détrôné.
Pas encore.
Il arrivera avant la fin de la saison.
Ça, c'est sûr.
Un petit mot sur Nico Hülkenberg de Racing Point Mercedes.
Ah oui.
Qui est parti 20e et dernier du GP. Il termine 8e. Et c'est une super performance parce qu'on connaît le week-end agité du pilote. Hein. Il a été appelé en urgence samedi à 11h. Alors que la séance d'essai libre débutait à midi.
Ouais, pour remplacer
qui était malade justement, Lance Stroll. Et du coup, il a pris le volant directement après les qualifs sans avoir pu effectuer le moindre roulage. Quoi. Donc,
c'est
exceptionnel.
Ouais. Et 8e.
Et à noter aussi.
Et devant Grosjean.
Romain Grosjean dans les points.
Ses deux premiers points.
Oui.
Bah, d'abord Gasly avant Grosjean, hein, s'il vous plaît.
Oui, Gasly fait une très bonne course. C'est sa deuxième meilleure course de la saison, Gasly. Après, évidemment, la grosse victoire. Voilà.
Mais faut féliciter Gasly, mais faut féliciter. Féliciter Grosjean hein, quand même hein, avec sa c'est très très compliqué d'aller chercher les points. Il a fait la course parfaite d'ailleurs, il a, dans les premiers tours il reçoit d'ailleurs des cailloux apparemment sur les doigts, ce qui fait
qu'il aurait eu un caillou dans le doigt.
Ouais, donc franchement il résiste bien, il fait une très belle course, faut le féliciter. Avec sa c'est compliqué, il passe devant Magnussen hein, au classement des
pilotes. Passe au rallye pour terminer la page Nitro.
Alors, c'était en Sardaigne ce week-end,
oui,
et
Sordo,
avec la victoire de
Sordo.
Sordo.
Ouais, ouais, bon, ça n'a pas été compliqué, hein, je veux dire.
Il a été en tête tout le week-end. Hein.
Tout le week-end, donc voilà, Ogier était...
C'est derrière que ça a poussé Ogier qui vient mourir à 10 secondes.
Ogier frustré
Neuville.
Parce que Neuville qui le passe sur la dernière étape et qui le remet à la troisième marche pour une petite seconde. Petite perte de points, mais du fait qu'il termine devant Elphine Evans, il se rapproche, il n'est plus qu'à 14 points d'Elphine Evans.
14 points, et alors attention, hein, puisque la FIA a rajouté ce week-end, un vendredi, une étape au calendrier. Hein. Il va y avoir le rallye de Monza, un rallye hybride, hein, avec deux journées sur circuit, une journée sur les routes. Donc, deux grands prix pour Ogier pour se rapprocher d'Elphine Evans. Ouais, 14 points, ben voilà.
C'est faisable.
Hein, et
on connaît le talent d'Ogier, donc...
Pour aller chercher un huitième titre.
Ça serait beau, ça serait beau.
Eh ben, on verra ça. Hein.
Les Sébastien sont en forme, hein, en tout cas, dans le WRC chez les Français. Entre Loeb et Ogier, là, on a une belle...
C'est le prénom qu'il fallait avoir, hein, pour gagner en WRC. Bon, ben, si on en a fini sur la moto, on passe au vélo. Maëlan, c'est chasse-patate.
Chasse-patate. Les grands tours, les grandes classiques et toutes les infos de la saison cycliste. C'est aussi dans Money Time.
Et une grande semaine de classiques, hein, en plus du Giro, puisqu'il y avait trois courses, hein, cette semaine au programme. Et on va commencer chronologiquement, hein, par la Flèche Brabançonne.
Oui, c'était la Flèche Brabançonne et c'était l'occasion pour la Philippe de se racheter un petit peu. Hein.
Oh là, ça a été encore chaotique.
Ça a failli encore une fois.
Mais il n'a rien compris, le garçon. Hein.
Mais il n'a pas compris la leçon, mais cette fois, il l'a remporté. La Flèche Brabançonne devant Mathieu Van Der Poel et Benoît Cosnefroy.
Surprise, parce qu'on pensait que Van Der Poel était plus fort au sprint.
Bah oui, Van Der Poel est techniquement normalement plus fort au sprint que
Alaphilippe l'année dernière, hein, sur la même course. Revanche, hein, pour Julien.
Exactement, et finalement, bah là, sur ce sprint, mais finalement, c'est surtout en fait, c'est Cosnefroy qui emmène, parce que c'est le moins bon au sprint, c'est normal, il part de plus loin. Van Der Poel le suit, et Alaphilippe reste bien dans les roues, et puis après, il déborde au bon moment, et Van Der Poel a failli revenir sur la fin, hein, Alaphilippe qui encore lève les bras un petit poil trop tôt.
Mais il a reconnu après. Il dit j'étais limite.
Encore une fois.
Mais il en a rigolé. Il a dit que ça rajoutait un peu de suspense.
Ouais. Mais bon.
Il aurait perdu, il aurait moins rigolé.
Ouais, effectivement. Pour Julien.
Mais c'est sa première victoire aussi.
Ça sera le Tour des Flandres, hein, maintenant. Mmh. Hein, et il mettra un terme à sa saison. Hein. Info, le Paris-Roubaix a été annulé. Hein, donc,
La classique, l'enfer du Nord.
Sur le calendrier, il restera plus que le Tour des Flandres et les trois jours de la panne, hein, qui d'ailleurs se courent sur une journée. Hein.
Il y avait aussi Gang-Velvegem avec la victoire de Pedersen devant le Français Sénéchal.
Superbe course. Ouais, pas diffusé sur les chaînes françaises.
Alors, sur l'équipe, mais aujourd'hui, journée après.
C'est Mads Pedersen, l'ancien champion du monde, le Danois qui remporte devant Sénéchal et Trentin. Et il y avait Paris-Tours. Et là, c'est un autre Pedersen qui gagne. C'est Casper Pedersen, le jeune de 24 ans de la Suède.
On peut rester sur Gang-Wevelgem, si tu permets. Avec deux hommes qu'on attendait, les deux grands favoris de l'épreuve, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, hein, qui devaient se disputer la victoire ces classiques flandriennes
vous,
et ces secteurs pavés.
Vous, les spécialistes du cyclisme, expliquez-moi ce qui s'est passé entre ces deux coureurs-là.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Mathieu Van Der Poel a systématiquement ramené les groupes en chasse-patate derrière Wout van Aert pour le faire perdre et pas pour lui gagner en réalité.
Il lui reproche
d'avoir fait le jeu de la concurrence. Au détriment de lui-même, puisqu'il est arrivé complètement épuisé dans le dernier kilomètre, et il peut pas jouer la victoire, hein, puisque c'est trois hommes qui s'échappent, hein, donc le Français Sénéchal, Trentin, Bettiol et Pedersen. Pedersen qui est le dernier à revenir sur ce groupe pour finalement s'imposer.
C'est le plus fort au sprint.
Sénéchal le dit, mais il dit qu'il a été un peu handicapé parce qu'il a été victime d'une chute, hein, Sénéchal, mais il rajoute que de toute façon, au sprint, Pedersen était meilleur et qu'il ne pouvait pas rivaliser avec lui.
Mais c'est curieux parce qu'on n'attendait pas celui-là. Hein.
Non,
vraiment,
c'est sûr.
On attendait,
Van Der Poel.
Il se retrouve.
Mais Van Der Poel, Van Aert, de toute façon, ça a toujours été un gros duel. Hein, même
après,
en cyclocross.
Depuis, oui.
Peut-être,
depuis cyclocross,
mais tout. Non. Peut-être qu'à se tirer la bourre comme ça toute la course, ils se sont épuisés mutuellement.
Hein. C'est sûr. Final, donc,
donc ça promet pour les prochaines.
Ah bah oui.
Bon, vraiment, là, quand tu lis dans les journaux, c'est vraiment, apparemment, c'est...
Ouais, c'est un gros clash.
C'est
hein,
un gros clash, quoi.
Bon, après, les journaux en rajoutent un peu, mais c'est vrai que c'est tendu entre les deux hommes. Ouais. Puis ça se répond, voilà.
Bon,
ça
pendant ce temps, effectivement, on courait en France Paris-Tours pour une victoire d'un autre Pedersen.
Et oui, c'est comme je disais, c'est Casper Pedersen qui l'emporte le coureur de l'année, devant encore Benoît Cosnefroy, le français. Et après, c'est quand même sa belle troisième place sur le Flèche-Brabanson. Lui, bah, finit
il a réussi
deuxième.
C'est classique.
Benoît Cosnefroy est 24 ans. C'est très bon coureur français de classique et tout. Donc franchement, il y a un bel avenir pour lui devant lui. Hein. Il fait beaucoup de bons résultats. Il était d'ailleurs maillot à poids finalement pendant de nombreux jours sur le Tour de France. Benoît Cosnefroy, chez AG2R la mondiale, qui d'ailleurs s'est reconcentré d'ailleurs sur les classiques maintenant, hein, avec le départ de Bardet, le recrutement de Jungels, qui a gagné le Liège-Bastogne-Liège, de Greg Van Avermaet. Donc, il a un bel avenir à AG2R la mondiale.
Oui, il annonce que d'ailleurs qu'il n'a pas peur de sa leader maintenant.
Ah bah non.
Il n'a
pas peur.
Il
n'a pas
peur.
Il le montre.
Et c'est normal.
C'était une belle course pour les Français, hein, parce que Cosnefroy fait deuxième, Barguil fait cinquième.
Ouais.
Madouas fait quatrième. Ouais. Bardet fait septième avec une super course. C'était seulement sa deuxième après le Tour. Et d'ailleurs, il fera le Tour des Flandres, hein, Bardet.
Et puis un format qui a un peu changé hein, depuis 3 ans. Paris-Tour, maintenant, il y a beaucoup de secteurs dans les chemins de vigne hein, qui donnent à la course.
Exactement, c'est un peu la caractéristique.
C'est
la caractéristique
c'est
maintenant
du Paris-Tour.
C'est
un super duel hein, entre Cosnefroy et Pedersen hein, dans les 30 derniers kilomètres. Et malheureusement, Pedersen a été meilleur au sprint.
De toute façon, Casper Pedersen était meilleur au sprint que Cosnefroy.
Tout à l'heure, on disait qu'il fallait s'appeler Sébastien. Là, il fallait s'appeler Pedersen pour le cyclisme.
C'est avec Mathieu, un tour de vélo dans un chemin de vigne, on pourrait le faire, nous.
Ah oui, pas de problème.
Ah, il n'y a pas de problème,
hein.
On pourrait le faire.
Du côté de Saint-Fiacre, quoi, là-bas.
Il faut que ce soit 10-15 km, pas plus, quoi.
Un dernier petit mot de vélo, du coup, tu parlais en VTT de la victoire de Pauline Ferrand-Prévot.
Ouais,
il faut saluer Jordan Sarrou chez les garçons, qui l'emporte, et une troisième place pour...
De Titouan Caraude.
Titouan Caraude, ouais.
Voilà. Exactement, Nino Schurter n'a absolument pas existé. Lui, le quintuple vainqueur, en titre actuellement, mais il en a gagné 8 en tout, quand même, hein. Qui n'a absolument pas existé, qui est fini que 9e hein, de la course.
Mais c'est Jordan Sarrou, c'est le premier Français depuis 2014
avec
et
Julien Absalon,
et Absalon ouais. À revêtir le maillot arc-en-ciel champion du monde de cross-country.
Donc bravo à eux, bravo aussi en féminine à la petite jeune Loana Lecomte chez les juniors qui prend le maillot arc-en-ciel aussi.
Et un mot de Giro maintenant.
Un mot de Giro, évidemment. Et on va parler d'Arnaud Démare. Arnaud Démare qui remporte 3 victoires en cette début
incroyable.
De Giro. Hein. Énorme. Le Sandros, le plus fort au sprint. Il a commencé par une victoire à la photo finish au centimètre face à Sagan. Il a concrétisé quelques jours plus tard avec une victoire plus simple. Là, il revient bien de l'arrière sur les 800 derniers mètres et après, les autres ont fait le travail pour rester à l'avant. Lui, il revient bien sur la fin.
Il a une bonne
il dépose tout le monde.
Il a une très bonne équipe parce que
ouais, dit, hein,
sur sa deuxième victoire, on voit bien son équipe fait tout le travail. Il reste en position à 200, 300 mètres de l'arrivée et là, il sort. Il sort.
Exactement, mais il sort bon.
Les mecs derrière,
il n'a pas fait d'effort avant.
Ils font la bordure pour éviter que personne ne rattrape. Et il est assez très fort.
Non,
c'est une très belle équipe.
Et ah mais c'est une équipe de toute façon tournée autour de lui. Et donc c'est logique qu'il remporte.
Il y a un leader. Il y a un leader dans l'équipe. C'est lui.
Je vous pose une petite question concernant du coup Démare. Donc je sais que le Tour de France cette année c'était pas fait pour les sprinters, mais est-ce qu'on peut quand même regretter un tout petit peu que Démare
n'ait
pas participé
au vu de la performance de Pinot. On peut effectivement se dire que bon voilà. Mais après on savait pas que Pinot. Moi, je ne regrette pas du tout. Hein.
Moi, je ne le regrette pas tant que ça parce que ça attaquait avec les étapes de Nice et il aurait pu se mettre hors jeu dès les étapes de Nice.
Bon, après, on ne pouvait pas savoir, hein, mais est-ce qu'on n'a pas trop donné à Pinot? On aurait peut-être dû répartir un peu plus.
Au vu de ce qu'il avait fait l'année dernière, franchement,
c'était
obligé
logique.
De donner à Pinot aussi à un moment.
C'est sûr.
Il avait le...
Non,
et
mais après, on va se contenter de ces 3 magnifiques victoires.
C'est pas fini.
C'est pas fini. Et d'ailleurs, c'est sa 13e victoire cette saison au total. Ce qui le fait que c'est le coureur qui a gagné le plus de courses en World Tour.
Ouais.
Dans les coureurs World Tour. Donc c'est très intéressant pendant des marques. Il fait une très belle saison.
Moins d'adversité quand même dans ce Giro.
Hormis Peter Sagan.
Viviani, Michael Matthews peut-être.
Peter Sagan.
Et l'autre,
Gaviria aussi d'ailleurs.
Sagan quand même, c'est pas n'importe qui. Il a réussi à le devancer.
Ah non, mais Sagan n'est pas n'importe qui.
Sprint, bon,
d'ailleurs, ça, je passe un petit coup de gueule sur Peter Sagan hein, qui a. n'était pas content sur la Arnaud Démare et tout, sur sa façon de sprinter et sur la cour FDJ qui, tactiquement, son
dit. Ouais, le perdant, il a toujours quelque chose à dire au vainqueur.
Exactement, et donc on espère. Et João Almeida qui conserve son maillot rose à la fin de cette première semaine de course.
Eh bah, c'est jeune parfait. Portugais. Encore deux semaines de course, aujourd'hui c'est repos et nous, bah, on passe à la suite, Maëlan, c'est Score en Stock.
Money Time. Score en Stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en Stock.
Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Allez Jean-Marc, on enchaîne les résultats de nos clubs nantais et surtout les féminines.
Exactement, on attaque tout d'abord avec les roses, avec une information importante qui vient de tomber à 18h. Conférence de presse pour annoncer qu'Arnaud Porroy va céder sa place, soit au mois de décembre, soit au mois de juin, à Johan Joubert. Donc voilà, il passe la main, on sait les soucis qu'il y a eu l'année dernière.
Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Il a dit qu'il voulait juste apprécier le hand. Donc je pense que c'est lié aux soucis de l'année dernière. Donc comme quoi, tu vois, ce qu'on parlait, il y a vraiment une décision qui suit derrière.
Ouais, est-ce que c'est pas aussi l'impact du corona qui se dit que, enfin, c'est une accumulation de problèmes certainement. Mais
alors il y a pas que ça, parce que du coup, il y a aussi une rentrée financière supplémentaire avec la rentrée au capital de Reality pour redonner un petit peu d'argent frais au club pour lui permettre de continuer à évoluer.
Oui, parce que c'est un club avec un beau potentiel. Et puis, ils avaient de grandes ambitions quand même. Enfin, ils ont d'ailleurs toujours de grandes ambitions.
Ils ont toujours des grandes ambitions, mais du coup, ils commençaient à manquer peut-être d'argent. Alors, en tout cas, c'est un gros changement. Hein. Le président qui change, c'est vraiment énorme. À noter sur le calendrier pour les Roses, mercredi, ça sera un match à Brest.
Très grosse affiche.
Exactement. Peut-être que Vincent y sera s'il n'embarque pas.
En tout cas, on sera devant notre télévision, je pense.
Exactement. C'est sur Sport en France. Donc du coup, sans Béatrice Escribano et Stine Bodol, puisqu'elles sont enceintes. Et surtout, on n'aura pas de pivot, puisque Stine n'étant pas là, Marion Loquet s'est blessée. Il n'y a pas de pivot pour aller à Brest, c'est vraiment embêtant. Prochain match, ce sera samedi 24, où on recevra Bourg-de-Péage à Mangin. Maintenant, on va basculer sur la belle surprise de la saison. C'est les féminines du FC Nantes qui en sont à 5 sur 5 après cette superbe 5e victoire, 4-0 contre Vandenheim, avec deux buts d'Anaïs Ribeira, un but de Julie Pian et un but de Jeudi. Donc elles sont très très bien. Ribeira, c'est son 6e but. Dimanche prochain, elle se déplace chez le 3e à Orléans. Et après, ça sera la réception de Saint-Malo à Sopin le 1er novembre. Et on va écouter tout de suite Tanguy Fétivo, leur entraîneur.
5 sur 5.
Avec Tanguy Fétivo pour Prune.
Ouais, 5 sur 5. Bah, c'était évidemment l'objectif aujourd'hui, de pouvoir enchaîner avec une 5e victoire et attaquer plein de confiance les 3 matchs qui nous attendent, avec le déplacement à Orléans la semaine prochaine, la réception de Saint-Malo et puis Lille derrière. Voilà, des équipes qui ont fait un très bon début de championnat, comme nous. Donc l'adversité sera là. C'était important aujourd'hui de prendre les points, de pas de bien gérer la rotation pour les petits retours de blessés, donner les bons temps de jeu, et le scénario nous a permis de le faire. Donc c'est positif ce soir.
Il va falloir
cette bonne lancée.
Après Orléans, ça sera un nouveau challenge. Ça sera dans l'antre mythique des Canaries à Sopin. Comment tu vois ça ? Je sais que l'année dernière, tu ne voyais pas trop d'aller à Sopin.
Oui, parce que voilà, y avait la montée, y avait plein de choses, un engouement, un apprentissage à avoir sur plein de domaines. Et puis changer de contexte, c'est toujours impactant. On ne sait pas si c'est positif ou négatif. Donc là, on n'est pas dans le même cadre. On a stabilisé certaines choses. Donc maintenant, on a fait nos deux derniers matchs à la Genouillère. D'ailleurs, on ne va pas dire qu'il y a un passement au cœur, mais ça fait 4 saisons maintenant. Enfin, c'est le début de la 4e. Où on joue ici sur ce terrain C. Donc ça, c'est une page qui se termine. Et c'est une nouvelle qui s'ouvre pour la section féminine. Donc ça, j'en suis content, fier pour le club, hein, pas personnellement. Mais c'est, je trouve le symbole beau. Je trouve que l'effort de la municipalité de changer le terrain pour faire plus de matchs et à l'équipe de D2 féminine de Nantes d'y jouer, c'est quelque chose qui est positif pour le sport féminin nantais.
On sent le public impatient, justement.
Donc on a hâte de les voir. Ça sera donc à partir du 1er novembre au stade Marcel Sepin, au niveau de la Gare Sud.
J'ai une petite question. On ne peut toujours pas interviewer les filles, les joueuses ?
Alors si.
Si, on a le droit.
Si, je te balancerai l'interview que j'avais d'Anaïs Ribeira. Il n'y a aucun problème, sauf qu'il a fallu choisir.
Okay.
Mais il n'y a pas de souci. Hein. L'autre fois, on avait eu Charlotte Lorgeret, d'accord. D'ailleurs, maintenant, pour le foot, c'est fait. VBN, le volet, le VBN, avec une petite information pour toi, Mathieu. C'est Lauren Chad qui a pris le capitanat, qui succède à Clémentine Druède. Elles joueront donc samedi soir à 18h contre Terville. Elles sont pour l'instant sur deux victoires à l'extérieur. Premier match à la maison contre Terville, donc ça va être très sympathique à voir. Et on a hâte de voir Souvi Kokinen, qui joue très très bien, Lucie de Kekeler, et suivre aussi Amanda Silves.
Oui, il y a pas mal de rotations, il me semble, cette année, enfin, de nouvelles joueuses.
Il y a énormément de nouvelles joueuses. Je n'ai pas pu en parler de toutes. Après, je t'ai vraiment choisi de Kekeler parce que c'est la libéro. Et Souvi Kokinen, qui est une des nouvelles joueuses. Et puis, l'arme fatale du VBN cette année, ça sera Amanda Silves.
Et donc, ce sera à voir sur Sport en France aussi, du coup ?
Certains matchs sur Sport en France, il faudra suivre. Je n'ai pas la liste exacte de Sport en France, mais normalement, ça sera sur Sport en France.
Ouais, samedi, il me semble. Non ?
Samedi, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Je n'ai pas vu. Je
ne me demande
pas ça. Je n'ai pas la réponse. D'ailleurs, à ce propos, Mathieu, tu vas nous rappeler le petit jeu avec les ballons Molten.
Oui, on vous fait gagner, chers auditeurs, un ballon officiel de la Ligue nationale de volley. Pour ça, rien de plus simple. Vous allez sur la page Money Time Facebook et puis vous likez et partagez le post en question. Tirage au sort ce week-end. Gagnant annoncé la semaine prochaine dans l'émission.
Pour les boys du NRMV, après une plutôt intéressante défaite de justesse à Tours 3-2 sur un match qu'ils auraient pu gagner, on était avec Charles samedi soir pour voir le NRMV affronter Tourcoing, une très belle équipe. Charles, du coup, donne-moi un petit peu ton avis par rapport à ça.
Bah, c'était un match très intéressant contre deux belles équipes. Le premier set, très, très bon premier set des Nantais, qui étaient dedans, ils étaient là. Tourcoing, qui était moins dedans, sentait que Nantes en voulait plus. Ils sont allés bien chercher ce premier set 25-21. Mais après, Tourcoing s'est remobilisé et on sentait une vraiment domination de Tourcoing avec de très bons joueurs comme Bultor, hein, l'international français. Donc,
Exactement, la nouvelle équipe de Mauricio Paes, hein, grande légende du volleyball français. Qui finit par s'imposer, 25-21 pour Nantes, puis 25-21 pour Tourcoing, 25-18 et 26-24. Finalement, mauvaise semaine pour les Nantais hein, qui sont...
Bah, ils auraient dû accrocher surtout le quatrième set hein, et aller chercher ce cinquième set. Et là, on ne saurait pas ce qui se serait passé, mais c'est dommage.
Voilà, il faut aussi intégrer les nouveaux joueurs que sont Adam Bartos... ou Steve Perronnet, et puis Léo Meyer, le passeur, qui a un nouveau rôle maintenant. On va l'écouter d'ailleurs, Léo Meyer.
Ouais, bonsoir à toi Léo, Charles pour une Radio Prune. Ce match ce soir, ça a été assez compliqué, un premier set quand même remporté. Qu'est-ce qui vous a manqué finalement pour aller se décrocher ce quatrième set ?
Il nous a manqué un peu, peut-être un peu de folie qu'on avait eu à Tours, un peu plus de, pas de l'envie, mais plus de relâchement, de jouer, de plus jouer en fait, de prendre ça plus comme un jeu, ce qu'on avait très bien fait à Tours. Là on était peut-être trop focalisé sur notre plan de match, la façon dont on voulait jouer plutôt que la façon dont il fallait jouer. Et voilà, après ça se joue à rien, à la fin Peter il attaque une balle 3 cm dehors, on attaque de nouveau une balle qui est bonne, donnée out. Donc voilà, ça se joue à rien. Après le quatrième set on doit le gagner, hein, on a la balle pour le gagner, on le gagne pas, donc voilà, nous deux. De voir ce qui n'a pas été pour que les prochaines fois ça se passe mieux quoi.
Pour toi, c'est un nouveau rôle, vice-capitaine, passeur titulaire. Comment tu appréhendes ce nouveau rôle dans l'équipe ?
J'essaie de me poser le moins de questions possible, même si forcément je m'en pose. Après, je suis dans cette équipe depuis maintenant deux ans et demi. Le coach, je le connais très bien, les joueurs me connaissent et je les connais très bien, donc c'est quand même. On va dire un environnement facile pour commencer à jouer. J'avais déjà joué pas mal de matchs l'an dernier, donc c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. C'est surtout une histoire de confiance, quoi. Une fois que les joueurs prennent confiance en moi, moi j'ai confiance en eux, tout, et en confiance en le coach en moi, tout va assez facilement, quoi.
Et qu'est-ce que ça te fait de revenir ici? Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de match après ces longs mois d'arrêt à Nantes-Rezé. Comment tu as vécu ce retour ici à la maison?
C'est un peu mitigé, on est un peu déçu forcément par la défaite pour la première à domicile. Après, parce que c'est très important dans le championnat de prendre les points à domicile. Après, on est très content parce qu'on avait un peu de doute, c'est un peu notre phobie, quoi, que la salle ne soit pas remplie. Et on a vu que les gens ont fait l'effort de se déplacer, sont venus, donc c'est vraiment une bonne chose, on est content. On est content qu'ils aient fait l'effort, maintenant je pense que c'est à nous un peu de faire l'effort sur le terrain pour leur donner envie de revenir, même si je pense qu'ils ont vu un beau spectacle ce soir et qu'ils ont envie de revenir.
Du coup, les Nantais, les Boys, qui se déplaceront à Toulouse le vendredi 16 et qui recevront Paris le 20 octobre. On passe aux Corsaires qui jouaient leur première journée de championnat avec une très belle victoire chez les Corsaires de Dunkerque et un très 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 bon Matthew Brenton qui met 3 buts et un but de Bergeron, un but d'Alexandre Péronfontaine. Les joueurs de Martin Lacroix qui recevront samedi à 18h l'Étoile Noire de Strasbourg à la patinoire du Petit Port.
18h.
Exactement. Il nous reste du basket. Alors le basket, c'est compliqué puisque les garçons ont des cas de Covid et ont dû annuler leur et déclarer forfait pour la Coupe de France. Et chez les filles, alors c'est très compliqué aussi avec beaucoup de reports. Pour l'instant, les Déferlantes ont joué que 2 matchs et ont perdu contre La Roche-sur-Yon et Landerneau. Et le prochain match, à moins qu'il y en ait un qui tombe dans la semaine avant, ça sera vendredi. Et elles recevront Tarbes.
Bon, allez, on enchaîne. Multizone, Maëlan, on parle vite fait de foot et de tennis.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone.
Money time.
Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on commence avec la Ligue des Nations, une Ligue des Nations qui nous a bien ennuyés ce week-end, hein, avec ouais. Des matchs sans relief. Hein.
Un bon 0-0 des familles.
Ouais, après un match amical sans grand enjeu face à une très faible équipe d'Ukraine, hein, 7-1. Contre le Portugal, une des meilleures équipes d'Europe. Donc 0-0.
On explique un petit peu l'UEFA qui nous met une Ligue des Nations pour justement ne plus jouer de matchs amicaux. Et puis on se retrouve avec jouer des matchs contre la Finlande et l'Ukraine. Et des joueurs qui n'ont plus de jus parce qu'en plus, avec
la reprise des championnats. Contre l'Ukraine, c'était compliqué parce qu'ils avaient beaucoup de cas de Covid quand même.
Les deux gardiens,
c'était même pas un niveau Ligue 2.
Mais surtout, ce qui faisait que l'entraîneur des gardiens est devenu deuxième gardien sur ce match.
Ce bon vieux Oleksandr Chokovski qui a dû reprendre les gants à 44 ans.
Contre ce match, contre le Portugal, qui était au final le plus important. Hein. Donc évidemment, offensivement, c'est très, 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 très faible. Des deux côtés. Hein, c'était,
après, je pense qu'il y a aussi un
Ronaldo.
La composition.
Par contre,
des deux côtés.
Défensivement. Moi, ça a un peu mieux joué. Moi, j'ai trouvé en première le Portugal.
Ouais, mais défensivement, par contre, Hernandez et Kimpembe ont fait un très bon match. C'est quand même à noter.
Les deux défenses, de toute façon, ont fait
mais
de très bons matchs.
Quand on regarde, c'est vrai, l'équipe de France avec des joueurs comme Mbappé, Giroud, Griezmann, Martial, Coman,
au prochain match. Hein.
On a une équipe qui fait rêver.
Ah, mais on a la meilleure équipe du
monde. On a rien.
Les meilleurs joueurs.
Quand tu vois des mecs comme ça qui sont sur le terrain,
Rabiot qui joue vers l'arrière,
Griezmann qui joue trop derrière.
Griezmann a joué beaucoup trop bas.
Beaucoup trop bas. Et alors, heureusement que derrière, on a retrouvé un Pogba exceptionnel.
Quand t'es trouvé,
il est très très bon, surtout en seconde période. Il a fait beaucoup de percées ballon pied. Il a tenté une frappe. Il a été vraiment percutant. On a retrouvé un peu le Pogba.
Moi,
des belles années.
Moi, je pense aussi que c'est aussi la composition.
Ça n'a pas été plus mauvais.
C'est la composition d'équipe qui n'allait pas. On a des joueurs qui vont sur le côté, qui sont très vite, comme des Mbappé, des Martial, des Coman, qui vont très vite sur les côtés, qui créent des différences.
Est-ce qu'on est
d'accord? On nous met un 4-4-2 en losange.
Ouais.
Mais au cœur du jeu, et ça marche.
Je suis d'accord avec
toi. Est-ce que toi, d'entrée de jeu, moi je l'aurais fait contre le Portugal. J'aurais osé une chose, c'est pas mettre Mbappé, pas mettre Griezmann, et j'aurais mis directement des Coman,
oui.
des Martial, d'entrée de jeu.
Exactement, pour les percuter un peu le jeu.
Justement,
pour
percuter le jeu,
ouais.
pour aller jouer, et après...
Mais
parce qu'au milieu de terrain, c'était bloqué. Ils ont des William Carvalho, des Danilo Pereira, c'est des récupérateurs, des joueurs très physiques. C'est très compliqué d'aller
Exactement.
Jouer là.
Ou d'ailleurs, Danilo Pereira, très belle recrue pour
Jean-Marc,
le PSG.
Jean-Marc, t'es d'accord avec nous ? Est-ce que tu es d'accord avec nous ? Moi, j'aurais mis justement devant, d'entrée de jeu... Des Coman, des Martial, ouais. des...
Mais le problème, c'est qu'avec Didier Deschamps, il a des cadres qui sont Giroud, Griezmann, il ne veut pas les changer. Et pour lui, il le dit après le match.
Ou alors, il fallait revenir sur le 3-5-2 qui a été mis en place.
Et Deschamps dit que 0-0, c'est un...
Je suis d'accord avec toi, Lucien.
Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Il faut dynamiser le jeu. Mais le problème, c'est que Deschamps ne veut pas prendre trop de risques, si tu veux.
Parce qu'il a ses bases.
Parce qu'il a ses bases et c'est ancré comme ça.
C'est le public qui veut voir le match, même s'il n'y a que 5000 personnes. Ils veulent voir Mbappé jouer.
Exactement.
Voilà, Griezmann jouer avec...
Après, il est très pragmatique.
Je ne suis pas d'accord.
Je vous rassure.
Non, il n'est pas pragmatique, c'est un mec rationnel. Mais là, il n'a pas compris une chose, c'est qu'en ce moment, il faut faire jouer des joueurs qui ont besoin de jouer, comme Wim Magir. Et les mecs de Rennes. Les...
Kamavinga.
Mais tu sais que moi, j'écorche toujours les noms.
Oui, je suis d'accord, il faut faire jouer ces jeunes-là. Il faut
toujours les faire jouer.
Ben, surtout dans des matchs comme ça, qui sont c'est la Ligue des Nations, mais au final, c'est comme un match amical. Enfin, tout le monde s'en fiche.
On
de la Ligue des Nations.
Non, tout le monde s'en fiche pas. Sur la pelouse,
des enjeux économiques.
On a fait une très bonne deuxième mi-temps.
Mais...
Parce que Angleterre-Belgique, juste avant, c'était à peu près c'était aussi nul.
Italie-Pologne, c'était pas mieux.
Mais vous savez pourquoi ça joue pas comme ça dans ces matchs de Ligue des Nations ? Tout simplement parce que le calendrier fait qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive très tôt.
Évidemment, les clubs se préservent leurs joueurs.
Et c'est là-dessus que je persiste dans ce que j'ai dit en début de saison. S'il y avait une compétition à supprimer, c'était cette maudite Ligue des Nations
Exactement.
Qui ne sert à rien.
Elle ne sert à rien. C'est juste un...
Oui,
c'est pour donner un peu plus d'enjeu à des matchs amicaux. Quoi.
Après, Jean-Marc, c'est les matchs amicaux voilà, qui
non, mais à un moment
se
donné,
servent en
fait,
de...
Je suis d'accord.
La publicité se servent de
oui,
ça
mais c'est compliqué
pour
parce
faire...
Que les...
Un peu d'argent, mais et voilà quoi.
Les top joueurs.
Covid important, il y avait des choses à faire et l'UEFA n'a surtout pas voulu s'asseoir sur des recettes financières.
Alors, je veux dire,
clairement, il n'y a que l'argent qui les intéresse, mais vraiment, il y avait un truc à faire, c'était supprimer cette compétition cette année.
Je vais être très très moqueur de moi-même. Sur M6, hier soir, j'ai regardé le match, et il y avait une question: qui a gagné la Coupe des Nations en 2019, la France ou le Portugal? Et je ne sais
plus. Tu t'en souviens plus.
Et je m'en souviens plus.
Mais non, mais personne ne va s'en rappeler.
Qui
s'en
souvient?
C'était Portugal.
Voilà.
Les Pays-Bas.
Et ben, j'avais très honte.
Personne s'en rappellera.
J'avais très honte de ne pas répondre à cette question.
Il n'y a que les rageux qui disent que ça ne sert à rien. Ceux qui lèvent le trophée, ils sont quand même bien
oui,
contents.
Oui, mais tu vois, si
non, mais je pense qu'aussi, après, c'est quand même c'est une compétition intéressante.
Non, elle était intéressante dans son format à 3 équipes. Là, on l'a agrandi à 4 équipes.
Ça,
et puis, au fait, ça nous fait 2 matchs de plus et de la crève en plus.
Là, dans 2 semaines, ils jouent la Ligue des Champions. Voilà. Ça va pas.
Bah, allez, il reste 5 minutes. C'est l'heure de jouer. C'est l'heure du quiz, Maëlan.
Money time. Chaque semaine, on se divertit. Chaque semaine, on se quiz. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Eh ben Lulu, on t'écoute pour ce quiz.
Alors un quiz sportif et sportif de légende.
Allez.
Donc on commence par quelque chose d'assez facile. Alors écoutez bien. Je suis né le 12 mai 1975 à Auckland et mort le 18 novembre 2015. Je suis un joueur de rugby. J'ai fait mes débuts dans le rugby à 13, puis ai basculé dans le rugby à 15. John Alomou, exactement. J'ai joué au poste d'ailier. On me surnommait l'autobus. Je suis John Alomou. Ok, on passe à un autre. Alors, écoutez bien, je suis né le 14 juin 1969 à Saint-Pierre. Je suis médaillé de bronze au JO de Barcelone en 92. J'ai été porte-drapeau.
Vous m'avez rose.
Non. J'ai été porte-drapeau de la délégation des sportifs français au JO d'Athènes en 2004. Mon fils est actuellement joueur professionnel dans le même sport que j'ai pratiqué. Ce sport est le handball.
Jackson Richardson.
Bonne réponse de Matt. Allez, on passe à un peu plus dur. Je suis né à Onesti en Roumanie le 12 novembre 1961. Je suis considéré comme l'une des meilleures
Nadia
de tous
Comaneci.
Les... Oh, excellent, Mathieu. Je finis quand même. Alors, je suis considéré comme l'une des meilleures de tous les temps dans mon sport. J'ai notamment réalisé une performance extraordinaire au JO de Montréal en 76 10, à l'âge de 14 ans. 10 sur 10.
À la poutre.
J'ai été élu gymnaste du siècle en 1999, hommes et femmes confondus.
Qui va être détrôné d'ailleurs.
Qui va être détrôné.
Par une américaine je pense que.
Donc je suis Nadia Comaneci, excellent. Je pensais que ça allait être dur, mais Mathieu, avec
c'est
la culture sportive,
pour
a été impérial. Et allez, un petit dernier. Je suis né le 2 décembre 1973 à Novi Sad, dans l'ex-Yougoslavie. En 1991, j'ai été la plus jeune numéro 1 mondiale.
Monica Seles.
Oh, excellent, Mathieu. Impérial. Donc, je finis lors d'un match à Hambourg en avril 92. Un spectateur m'a poignardé dans le dos.
Ouais.
Je suis aussi devenu célèbre pour les cris que je poussais sur le court au moment de frapper la balle. Et je suis donc Monica Seles. Et voilà pour moi.
Bon, Lucien.
Donc, peut-être on a le temps pour faire un tout petit mot de tennis.
Oui.
Sur Nadal.
Allez, une minute. Une minute, Charles. Donc,
attaquez.
Et oui, c'est Rafael Nadal qui remporte la finale de Roland Garros
sans surprise.
Novak Djokovic. Sans surprise, alors que pourtant on prévoyait un duel stratosphérique, que Djokovic c'était peut-être son année, que Nadal les conditions étaient moins bonnes pour lui.
Mon favori c'était Djokovic.
Exactement.
Et il avait quand même une surprise.
Il l'a enchaîné sur les deux premiers sets 6-0, 6-2. Il n'a rien compris, Djokovic.
Il a contré tous ses amortis.
Nadal était juste exceptionnel.
20e titre en Grand Chelem.
Exactement.
Ouais, il rejoint Federer.
Et pourtant. Quand le match a été annoncé qu'on allait fermer le toit, moi je me suis dit Djokovic a encore un avantage de plus parce qu'il est meilleur que Nadal sur les matchs en intérieur.
Mais surtout aussi, il faut regarder les chiffres, les fautes directes. Nadal n'en a fait.
Nadal, 43.
Les... Ouais, c'est impressionnant.
Alors, moi j'étais au 4ème set, j'étais à 43ème set. Au 2ème set, on était à 43 à 10.
Ouais, exactement.
Faute directe.
C'est incroyable.
Et c'était double faute, il n'y en a eu qu'une. Il l'a faite, évidemment. Là où il va le faire, sur un break. Et Nadal n'a pas cherché à comprendre.
Nadal, et voilà, c'est
prochain rendez-vous tennis, ça sera gros rendez-vous tennis, ça sera Paris-Bercy. Hein,
Masters, Rolex Paris.
Master 1000 en France, à Paris. Oui,
et juste
Paris, dans
un petit mot pour saluer Iga Świątek.
Qui gagne chez les femmes.
Qui était 46e mondial à peu près.
54e.
Premier titre pour la Pologne.
Et féliciter 17e.
19 ans, elle a mon âge. Et ben voilà.
Et féliciter Hugo Gaston.
Et Cocorico, Mladenovic, victorieuse en double.
Elle fait le doublé parce qu'elles avaient déjà gagné l'année dernière.
Ça sera le mot de la fin puisqu'il est 20h moins 8 secondes. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Siamo spiacenti. La chiamata non può essere completata.
Une radio sans pub, c'est Prune 92 FM.